corrigé du texte de Simone Veil donné au Bac Blanc 2026. Première petite chose à savoir, c'est que Simone Veil, la philosophe, n'est pas la même personne que Simone Veil, la femme politique, qui est notamment à l'origine de la loi d'autorisation de l'avortement en 1975. En l'occurrence, le nom de famille de cette dernière commence par un V et non par un W comme la philosophe. Simone Veil est donc une philosophe du début du XXe siècle qui a fait des choix de vie particulièrement intéressants puisque, en tant qu'intellectuelle, elle se sentait trop loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrain et a choisi de faire l'expérience du travail en usine pendant 2 ans et l'expérience de la guerre au moment de la guerre d'Espagne. Ces expériences ont évidemment fortement influencé sa pensée. Le texte que nous allons expliquer est tiré des réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Il s'agit d'un texte de 1934. Le texte étant un petit peu long, je vous laisse le lire une première fois. Ensuite, je vais faire une introduction, puis je reprendrai chaque partie du texte et à ce moment-là, je lirai le passage concerné. Petite remarque préalable sur la spécificité de ce texte, il ne s'agit pas d'un texte difficile à comprendre, mais c'est essentiellement sa logique qui est peut-être plus difficile à mettre en évidence. Tous les textes de Bach ne sont pas des textes où le raisonnement est extrêmement carré. Ici, la thèse de Simone Veil se développe au fur et à mesure du texte et on ne peut pas réellement identifier un moment où elle s'exprimerait de manière claire. Dans la série des difficultés du texte, nous avons aussi une référence culturelle qui a échappé à de nombreux élèves et même à tous les élèves. Il s'agit de la référence à l'âge d'or. L'âge d'or renvoie à la mythologie grecque. Il s'agit de différentes époques du monde, l'âge d'or étant la première où, pour citer Hésiode dans les Travaux et les Jours, les hommes, les mortels, vivaient comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétude, de travaux et de souffrances. La cruelle vieillesse ne les affligeait point, leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur, et loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins, riches en fruits délicieux et chers aux bienheureux mortels. Il s'agit donc d'un mythe qui est assez proche d'une certaine manière de ce qu'on retrouve dans la Bible avec le jardin d'Éden, c'est-à-dire d'une époque paradisiaque où tout est à disposition des êtres humains, où ils n'ont pas besoin de travailler car tout est disponible, ils vivent dans la jouissance la plus totale et n'ont par conséquent qu'une vie oisive où leurs activités sont des activités de loisirs. J'en profite ici pour utiliser un des termes du texte qui a posé problème, puisqu'il y a aussi dans les difficultés du texte des problèmes de vocabulaire, c'était le mot « oisif ». Simone Veil parle d'un peuple d'oisifs, ce qui renvoie justement à la condition des êtres humains à l'âge d'or, puisque l'oisiveté, c'est la situation de celui qui ne travaille pas. Et en l'occurrence, l'adjectif « oisif » et le mot « loisir » viennent de la même racine latine « osium » ou « otium » O-T-I-U-M, qui signifie ou qui correspond au fait d'être éloigné des préoccupations du quotidien, d'avoir le temps de s'adonner aux activités qui sont des activités librement choisies. Bien, donc, pour introduire le texte, il faut tout d'abord mettre en évidence le thème. Ici, les deux thèmes principaux sont le travail et la liberté. Ils ont été facilement identifiés. Maintenant, il faut voir quelles questions, quels problèmes philosophiques et surtout quelles thèses Simone Veil souhaite élaborer sur cette question de la relation entre le travail et la liberté. Pour introduire la thématique, on pouvait par exemple, partir de l'étymologie du travail, le tripalium en latin, qui est un instrument de torture, et mettre en évidence le fait que le travail était généralement vécu comme une contrainte, une activité qui n'est pas librement choisie, mais qui est imposée par la nécessité, notamment la nécessité biologique, de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, le travail implique de faire des efforts, et ces efforts peuvent être source de souffrance. Le travail peut donc faire souffrir à deux niveaux, au niveau physique, par les efforts qu'il demande, et au niveau psychologique, par le sentiment de ne pas exercer librement ses forces, de ne pas avoir choisi librement l'activité que l'on a. En même temps, par le travail, nous avons aussi le sentiment de nous dépasser nous-mêmes. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, du résultat de nos efforts. Ainsi, on peut poser le problème suivant. Le travail est-il une contrainte ou est-il, au contraire, libérateur? Dans ce texte, Simone Veil ne tranche pas, ne choisit pas entre les deux membres de l'alternative, mais au contraire, on pourrait dire que sa réponse consiste à dire que le travail est à la fois une contrainte et un facteur de libération pour l'homme. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que c'est justement parce qu'il est une contrainte qu'il est facteur de libération. Et c'est en cela que va consister l'originalité de la thèse de Simone Veil. Premièrement, il s'agit de mettre en évidence le fait que la contrainte est libératrice et que le travail n'est peut-être pas en lui-même libérateur, mais constitue un modèle pour toute forme d'activité qu'on pourra considérer comme réellement libre. Maintenant, quelles sont les étapes de l'argumentation du texte ? Alors ici, le découpage est un petit peu difficile à opérer. Personnellement, je choisis de découper le texte en trois parties. Encore une fois, la logique de ce texte est assez sinueuse, la thèse se construit petit à petit, et donc on a une petite latitude dans la détermination des différentes parties du texte. La première partie irait des lignes 1 à 7 jusqu'à fantaisie. Cette partie est centrée sur l'hypothèse du peuple d'oisif. C'est-à-dire que Simone Veil utilise la stratégie de la fiction théorique en imaginant un monde duquel le travail aurait disparu et en essayant d'en examiner les conséquences. Pour la deuxième partie, on irait de la ligne 7 à la ligne 15 jusqu'à Caprice. Il s'agit très certainement du passage où la thèse de Simone Veil s'exprime le plus clairement. Il s'agit de mettre en avant le fait que le travail, par la discipline qu'il apprend, est un modèle pour toutes les autres formes d'activité, où il ne s'agit pas de faire tout ce que l'on veut, mais au contraire de chercher à se vaincre soi-même, ce qui constitue la véritable liberté, par opposition à la liberté fantasmée de l'âge d'or, qui est également rapprochée de l'absence de liberté de l'enfant capricieux. Il y a ici une analogie entre l'enfant sans règles et l'homme adulte sans travail. Tous deux ne jouissent que d'une apparence de liberté, la liberté consistant à ne pas avoir de contraintes et qui n'est pas, pour Simone Veil, une liberté réelle. Dans la dernière partie du texte, il s'agira donc pour Simone Veil de préciser sa conception de la liberté et surtout de s'opposer à l'idée que la liberté serait l'absence de contraintes. Au contraire, pour elle, non seulement la contrainte est absolument nécessaire, c'est la condition de l'être humain, mais en plus, l'absence de contraintes signifie la soumission aux affects et aux passions. Et ce sont en réalité ces dernières qui sont source de souffrance si elles ne sont pas cadrées, si elles ne sont pas canalisées par une discipline. L'homme libre, pour Simone Veil, est donc celui qui sait se vaincre soi-même, c'est-à-dire vaincre ses passions, par la discipline et les règles qu'il est capable de s'imposer. Il s'agit donc d'une liberté conçue comme une forme d'autonomie, et non comme une forme de licence. Bon, évidemment, à l'écrit, j'aurais tâché d'être un peu plus concise sur l'énoncé du contenu de ces différentes parties, mais là, j'en profite pour commencer aussi à déblayer un peu l'explication et à mettre en valeur le plus clairement possible ce texte qui contient beaucoup d'idées et dont la logique est assez sinueuse. Nous allons à présent reprendre chacune de ces parties, c'est le principe du développement et de l'explication linéaire. Je vais lire le passage en question et mettre en évidence les éléments qu'il était intéressant d'expliquer plus en détail. On commence par la première partie et l'hypothèse d'un monde sans travail. Je lis le texte. Il suffit de tenir compte de la faiblesse humaine pour comprendre qu'une vie d'où la notion même du travail aurait à peu près disparu serait livrée aux passions et peut-être à la folie. Il n'y a pas de maîtrise de soi sans discipline, et il n'y a pas d'autre source de discipline pour l'homme que l'effort demandé par les obstacles extérieurs. Un peuple d'oisifs pourrait bien s'amuser à se donner des obstacles, s'exercer aux sciences, aux arts, aux jeux, mais les efforts qui procèdent de la seule fantaisie ne constituent pas pour l'homme un moyen de dominer ses propres fantaisies. Alors ici, le but, ça va être d'essayer d'éviter de paraphraser le texte, c'est-à-dire de reformuler les idées. Bien sûr, qu'il faut reformuler, hein. Et puis en plus il y a différents niveaux de paraphrase, mais on va dire que ça c'est un gros défaut des élèves et qu'il est facile de corriger les choses, premièrement en faisant un effort de définition des termes importants et un effort d'explication des expressions dont vous sentez qu'elles sont significatives. Je prends un exemple, dans la première phrase, à la première lecture, j'ai envie d'entourer faiblesse humaine. C'est une expression qui est intrigante. On a envie de savoir en quoi justement consiste cette faiblesse humaine. Et en plus, elle est un petit peu provocatrice. Elle nous met face à nos défauts, à nos défaillances. Donc, il s'agit d'essayer de l'expliquer et de faire un focus sur cette expression. Et donc de faire le lien avec d'autres éléments du texte. Pour Simone Weil, cette faiblesse ne fait aucun mystère. L'expression « il suffit de tenir compte » met en évidence le fait que pour elle, il s'agit tout simplement de quelque chose qu'on constate dans l'expérience commune. En quoi consiste donc cette faiblesse dont part l'argumentation de Simone Weil ? Il s'agit de la difficulté, voire de l'incapacité de l'homme à ne pas céder à ses passions. Ici, je vais faire intervenir un travail de définition. Qu'est-ce qu'une passion ? Passion, ça vient du verbe passior, en latin, qui signifie souffrir, subir. Donc les passions, dans ce texte, comme dans la plupart des textes de philosophie, ce sont tout ce que nous subissons, tout ce qui se produit en nous sans que nous l'ayons voulu. Les passions s'opposent à la volonté. Ce sont les émotions, ce sont les désirs que nous ressentons, mais que nous n'avons pas produits. Alors attention, les passions en soi, ce n'est pas nécessairement mauvais. Les désirs, si on prend par exemple la faim, ce désir, il est important. Il faut se nourrir, il faut céder à cette passion pour se préserver. La faim est une passion qui est bonne. Par contre, si on n'encadre pas cette passion, cela peut devenir excessif. Je reprends l'exemple de la faim. On dit souvent que la gourmandise est un vilain défaut. Eh bien oui, en l'occurrence, c'est un défaut de contrôle. On cède systématiquement à la passion que nous inspire tel ou tel aliment. On ne se nourrit plus, on ne répond plus à un besoin, mais on se laisse aller. Or, le laisser aller, c'est ce qui va nous mener à l'excès. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la dérive que met en avant Simone Weil, à savoir le fait que cela peut nous mener jusqu'à la folie. En effet, prenons d'autres passions plus en lien avec la thématique du travail. Prenons la passion de paresse ou de fainéantise, ou encore la passion d'ennui. Eh bien, ces passions-là qui ne sont pas forcément mauvaises, il faut savoir lever le pied de temps en temps, c'est l'intérêt des vacances. Il faut se reposer de nos activités et il faut aussi savoir s'ennuyer parce que c'est souvent dans l'ennui qu'on arrive à trouver de la créativité, à trouver des idées. Donc ces passions, encore une fois, ne sont pas en soi mauvaises. Mais si elles deviennent excessives, si elles prennent trop de place, si elles ne sont pas canalisées, à ce moment-là, en effet, elles peuvent mener à des pathologies. On associe généralement l'incapacité à agir et un ennui profond à la dépression. Bien, donc on a d'abord ce constat que l'être humain est faible. Il faut donc qu'il agisse et qu'il fasse preuve de force pour contrecarrer cette faiblesse. C'est là qu'intervient l'idée de Simone Weil que le travail devient nécessaire, car pour éviter de se laisser aller, il faut se prémunir de cela en se donnant des règles, en s'imposant une discipline. Qu'est-ce en effet qu'une discipline ? C'est un ensemble de règles que l'on se donne pour atteindre tel ou tel objectif. Or, qu'est-ce qui nous apprend cette discipline? Et c'est là que la notion de travail va intervenir. Car, en effet, il n'y a aucune raison que la discipline vienne des passions. Les passions ordonnent un certain nombre de choses, mais ne définissent pas de règles, ne se donnent pas à elles-mêmes de limites. Donc, qu'est-ce qui va nous donner des limites? Eh bien, si ça ne vient pas de l'intérieur, ça doit venir de l'extérieur. Et ce sont donc les obstacles que nous rencontrons à l'extérieur qui vont nous inciter à nous mettre des règles pour canaliser ce qui vient de nous. Et comme le travail consiste justement à faire effort pour abolir ces obstacles extérieurs, à ce moment-là, on comprend que le travail, c'est ce qui nous apprend la discipline dont nous avons besoin pour nous opposer ou en tout cas mettre des limites à nos passions. Afin de renforcer cette idée, Simone Weil va produire un raisonnement par l'absurde à partir de l'hypothèse d'un monde sans travail, qui, par définition, n'existe pas. Un raisonnement par l'absurde, pour rappel, c'est un raisonnement qui admet au départ une hypothèse et qui vérifie les conséquences de cette hypothèse. Qu'est-ce qui se passerait si, en effet, les choses étaient telles qu'on en fait l'hypothèse? Ici, donc, qu'est-ce qui se passerait si on éliminait le travail et si nous n'étions qu'un peuple d'oisifs, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas d'obligation et qui peuvent se laisser aller à l'oisiveté. L'oisiveté, ici, ça ne signifie pas l'absence d'activité, les êtres humains doivent être actifs, mais leurs activités ne sont que des activités qu'ils ont librement choisies, puisqu'ils ne sont soumis à aucune nécessité. Dans ce cas, ce que nous dit Simone Weil, c'est que, n'ayant aucun modèle de ce qu'est une véritable discipline, un véritable besoin de se confronter à des obstacles extérieurs et à les surmonter, alors ces êtres humains oisifs ne feraient que s'inventer des obstacles qui ne seraient pas réels et qui ne leur permettraient en réalité pas de réussir quoi que ce soit. Et surtout, cela ne leur permettrait pas de s'autodiscipliner et de maîtriser leur propre fantaisie, comme le dit le texte. La fantaisie, c'est a priori l'imagination. Quelqu'un de fantasque, c'est quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire par opposition à un monde réel, ou qui a une attitude qui semble en décalage avec ceux qui sont ancrés dans le monde réel. Car le réel, c'est justement ce qui nous fait obstacle, ce qui résiste à nos désirs. Et ici, l'usage du terme fantaisie peut être rapproché de la folie, qui est un risque de l'oisiveté, car lorsque l'imaginaire prend le dessus et lorsque l'imaginaire devient ou se substitue au réel, à ce moment-là, on est effectivement dans une forme de folie. On vit dans un monde fantasque et délirant, fruit de nos désirs et de nos passions débridées. On peut donc passer à la deuxième partie du texte, où Simone Weil affirme un certain nombre d'éléments qui constituent la thèse centrale du texte, notamment l'idée que le travail est nécessaire, non pas au sens où il répond à des nécessités vitales qui pour nous sont des contraintes, mais au sens positif où il est nécessaire à notre vie. C'est justement parce que nous travaillons que nous pouvons, par ailleurs, dans des activités qui sont des activités librement choisies, donc des activités de loisirs, réellement nous épanouir et nous réaliser sur le mode de la confrontation avec soi-même et sur le mode de la maîtrise de soi. On peut ici mettre en évidence le vocabulaire de l'imitation, le verbe imiter ainsi que la notion de modèle. Le travail n'est pas en fait directement libérateur. Il semble que Simone Weil ne cherche pas ici à minimiser le fait qu'il reste la plupart du temps une activité contrainte. Ce qui est d'autant plus probable qu'elle est allée elle-même se confronter au travail aliéné que peut constituer le travail à l'usine et qu'elle a elle-même vécu l'oppression par le travail. Ici, on dira que le travail est nécessaire pour libérer l'homme de manière indirecte, en fournissant un modèle de ce que peut être une activité réellement libre. Autrement dit, une activité n'est pas simplement libre parce qu'elle est librement choisie, mais elle sera réellement libre quand, dans cette activité, je parviendrai à me vaincre moi-même, à vaincre mes passions, notamment celles qui peuvent m'empêcher d'atteindre mes objectifs, comme la paresse ou la démotivation. Et grâce au modèle fourni par le travail, je vais d'autant mieux parvenir à accomplir quelque chose à travers mes activités librement choisies et parvenir à réaliser mes objectifs. Ici, de nombreux élèves sportifs, mais pas que, ont évidemment pris l'exemple du sport et de l'importance de la discipline dans les disciplines sportives. On pourrait développer cet exemple plus précisément, mais je passe là-dessus pour raccourcir mon explication. Vous pouvez le faire vous-même assez aisément. N'hésitez pas à prendre des exemples dès que possible pour illustrer les propos abstraits des auteurs, que ce soit en explication de texte ou en dissertation. Le travail sur les exemples est vraiment fondamental. On va maintenant passer à la troisième partie du texte, qui est beaucoup plus centrée sur la question de la liberté. Ici, il ne s'agit pas de montrer la nécessité du travail, mais de réellement beaucoup plus insister sur ce qu'est la liberté et comment justement elle se définit par rapport à la question de la discipline. À la fin de la deuxième partie, Simone Weil revient pour renforcer son argument sur une fiction, la fiction de l'âge d'or, qui renvoie à la fiction du peuple d'oisif de la première partie, et fait une comparaison avec la situation de l'enfant qui, sans règles, deviendrait capricieux, c'est-à-dire soumis à ses caprices et à ses passions débridées. Il y a souvent eu une mauvaise interprétation, voire un petit contresens fâcheux sur cette partie et sur l'exemple de l'enfant. Certains élèves ont cru, parce que la phrase commençait par « la seule liberté qui existe à l'âge d'or », donc certains élèves ont cru que pour Simone Weil, la liberté de ne pas avoir de contraintes était justement la bonne définition de la liberté. Or, il y a quelque chose d'ironique dans cette formulation, puisque, on le voit par la suite, la seule liberté n'est pas réellement une liberté. Vous avez cet adverbe « réellement » à la fin de ce passage, et l'exemple de l'enfant aurait dû vous mettre la puce à l'oreille, car personne ne peut penser qu'un enfant qui fait strictement tout ce qu'il veut est un enfant libre. Et il était donc intéressant de remarquer qu'il y avait ici une forme de raisonnement analogique, c'est-à-dire que une analogie, une comparaison est faite entre la situation de l'enfant qui n'a pas de règles, donc de l'enfant capricieux, et la situation de l'homme oisif, qui est typiquement la situation de l'âge d'or. Je rappelle qu'il s'agit d'un âge mythique où les hommes étaient en effet complètement débarrassés du travail, où tout leur était donné directement par la nature. Un âge où ils vivaient comme des dieux. Et l'analogie, par conséquent, fait une comparaison entre cette situation et finalement la situation consistant à être soumis à toutes ses passions et donc à être capricieux. Les hommes de l'âge d'or étaient comme des enfants capricieux. Ceci permet à Simone Weil de mettre en évidence ce qu'est la réalité de la condition humaine, donc d'opposer cet âge mythique à finalement ce qui est la réalité de notre vie. Et cela lui permet également de s'opposer à la conception de la liberté qui est sous-jacente dans ces mythes de l'âge d'or. C'est donc ce qu'elle fait dans cette troisième partie du texte. Premièrement, elle va mettre en évidence ce qu'est la réalité de la condition humaine, le fait qu'il est soumis à des contraintes, tout simplement parce que l'être humain est un animal, qu'il a un corps et qu'il a donc une nécessité biologique en lui, et qu'il est pris dans un monde naturel qui n'est pas toujours en sa faveur et peut parfois lui être hostile. C'est le sens de la phrase suivante. Le corps humain ne peut en aucun cas cesser de dépendre du puissant univers dans lequel il est pris. Quand même l'homme cesserait d'être soumis aux choses et aux autres hommes par les besoins et les dangers, il ne leur serait que plus complètement livré par les émotions qui le saisiraient continuellement aux entrailles et dont aucune activité régulière ne le défendrait plus. La première partie de cette phrase relève du pur constat. Nous sommes soumis aux lois de la nature, nous sommes soumis aux dangers extérieurs, nous sommes soumis au réel, nous subissons des contraintes. Et c'est comme cela. L'idée sous-jacente, c'est que, étant donné qu'on essaye de s'opposer à l'idée que la liberté, c'est l'absence de contraintes, eh bien, l'idée sous-jacente ici, c'est que, puisque la condition humaine est nécessairement une condition de contrainte, dire que la liberté est une absence de contrainte, c'est tout simplement dire que l'homme ne peut pas être libre. C'est incohérent. Donc, première incohérence. Mais en plus, suite de la phrase et fin de la phrase, quand bien même il serait possible d'échapper à ces contraintes, donc on revient sur la modalité de l'hypothèse. Donc s'il était possible d'échapper à ces contraintes, en réalité, il y aurait une nouvelle contrainte auquel l'homme serait soumis, c'est la contrainte de ses passions et de ses émotions. Ici, on peut penser à des émotions spécifiques à l'absence de contraintes comme l'ennui. Et l'ennui, quand il saisit aux entrailles, peut être particulièrement destructeur. Pareil pour l'angoisse, qui peut être associée à cette situation où finalement il n'y a pas vraiment de sens à notre existence. Pour résumer l'idée ici, c'est vrai que les contraintes, c'est un peu pénible, mais en même temps, c'est ce qui nous permet de nous occuper, d'échapper à l'ennui, d'échapper à l'angoisse, et finalement, une fois qu'on a surmonté ces épreuves, on peut être fier de ce qu'on a accompli. Alors que se laisser aller à la paresse a un impact négatif sur l'estime de soi. Le texte va donc s'achever sur la thèse de Simone Weil concernant la liberté. Je lis cette fin de texte. Si l'on devait entendre par liberté la simple absence de toute nécessité, ce mot serait vide de toute signification concrète, mais il ne représenterait pas alors pour nous ce dont la privation ôte à sa vie sa valeur. On a déjà évoqué cette conception dans ce qui précède, donc on peut aller vite. La première partie de cette phrase est tout simplement la conséquence de ce qui était dit précédemment. Par définition, nous sommes soumis à la nécessité, donc dire de la liberté que c'est une absence de nécessité, eh bien, c'est tout simplement dire que la liberté n'existe pas, d'où l'expression c'est un mot vide de sens, ça n'existe pas, donc ça n'a pas de sens, le mot ne renvoie à rien. Et en plus, Simone Weil ajoute que la liberté, c'est ce qui donne du sens à notre vie, donne de la valeur à notre vie. Nous sommes généralement, en tant qu'êtres humains, assez fiers d'être libres et nous estimons que être libre, c'est le but de la vie. C'est ce qui nous permet de nous réaliser pleinement. Donc, se priver de la possibilité de la liberté juste parce qu'on le définit mal et qu'on l'associe à l'absence de contraintes, c'est aussi une conception de la liberté qui peut avoir des effets néfastes car elle sera impossible à conquérir. Jamais nous ne vivrons dans un monde où il n'y a ni nécessité ni contrainte et par conséquent pas de travail. Voilà pour cette explication. J'espère que le sens du texte aura été clarifié et surtout que les différentes techniques à utiliser pour réellement expliquer en détail et éviter la paraphrase auront été bien exemplifiés dans cette explication.